Je pense que je peux inviter la première table ronde à s'organiser. En l'occurrence, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, s'il vous plaît. Didier Faury, Jacques Moury également.
Bonjour à tous, merci de votre attention. On m'a demandé de remplacer un petit peu au pied levé Madame Menotti qui est souffrante et à qui, je crois, on transmet tous nos voeux de prompt rétablissement. Donc je n'ai naturellement pas eu le temps de préparer une intervention structurée. Je vous prie par avance de m'en excuser. Mais d'une part, Madame Menotti a pu nous transmettre un texte, alors qui n'est pas exactement le texte de son intervention, mais en tout cas qui était la base de son intervention, que vous avez, je crois, qui était joint dans votre livret, et qui va nous permettre de nous servir un petit peu de fil conducteur pour nos interventions, et dans lequel elle fait un certain nombre de constats et également un certain nombre de propositions. Et puis, je pense que le but aussi de l'animation de cette table ronde, c'est effectivement qu'on puisse s'exprimer, mais que vous puissiez aussi vous exprimer, que ce soit interactif et que vous n'hésitiez pas à poser des questions par rapport aux différents points que l'on peut aborder ou différentes observations que nous pourrions faire. Alors, c'est vrai que cette question du coût, c'est souvent une question un petit peu qui peut être un peu délicate dans les relations qui peuvent exister entre les magistrats et les experts, parce que lorsque nous désignons des experts, notamment ceux que nous désignons habituellement, nous désignons pour leurs compétences, il y a une certaine relation de confiance qui peut exister. Ça répond à des besoins évidemment de la justice, et c'est parfois c'est toujours assez désagréable pour nous magistrats d'avoir à dire un expert, on ne va pas vous indemniser de la totalité des sommes que vous nous réclamez. De la même façon, je l'imagine aisément, ce n'est pas non plus très agréable ni très facile nécessairement pour un expert d'aller exposer devant un magistrat les difficultés qui peuvent exister pour lui par rapport au coût de l'expertise. Et pourtant, cette question, je pense qu'on en est tous conscients, elle est tout à fait déterminante pour que, effectivement, la bonne marche des expertises, et je crois que c'était intéressant que ça puisse être abordé au cours de cette journée. Alors, poser la question du coût de l'expertise, c'est vrai que c'est complexe parce que les expertises, elles ont des natures extrêmement différentes. Il y a des expertises complexes où de nombreuses parties interviennent, des expertises beaucoup plus simples, il y a des expertises qui sont un petit peu des expertises types et d'autres au contraire dans d'autres domaines d'intervention où elles sont différentes pour chaque dossier. Et puis il y a également une différence qui est tout à fait essentielle et je crois que ça ressort également des travaux en atelier de ce matin entre les expertises pénales et les expertises civiles parce qu'on est dans un cadre procédural qui est tout à fait différent. L'expertise pénale, elle est ordonnée, évidemment, comme l'expertise civile par un magistrat, mais elle n'est pas la plupart du temps faite à la demande d'une partie. Alors que l'expertise civile, c'est à la demande d'une partie, et l'expertise civile, c'est avant tout l'affaire des parties, c'est à eux apporter un certain nombre de pièces à l'expert, sous le contrôle d'un juge, mais elles sont essentiellement de nature différente. Et en matière de coût, il est évident que la différence essentielle, c'est que la plupart, pas la totalité, mais la plupart des expertises pénales sont tarifées, ce qui n'est pas le cas des expertises civiles. Alors, un mot peut-être sur justement ces questions de coût en matière d'expertise pénale. En matière d'expertise pénale, il y a de plus en plus d'expertises qui sont obligatoires légalement, c'est-à-dire qui résultent d'obligations de la loi, notamment essentiellement des expertises de nature psychiatrique qui sont obligatoires pour un certain nombre d'infractions avant de pouvoir poursuivre ou juger une personne, qui sont obligatoires également un domaine que seuls ceux qui l'exercent ont en tête, mais qui est très important, qui est celui du domaine de l'application des peines, où avant de pouvoir prendre des décisions concernant des permissions de sortie, des libérations conditionnelles de personnes qui sont détenues, le recours à un, voire parfois à deux, un collège de deux experts, est obligatoire. Ce sont des domaines extrêmement important, très sensible dans notre société. On le sait bien, puisque savoir si une personne est qui a pu commettre des faits graves et ou non responsable pénalement, c'est quelque chose de tout à fait déterminant. Et savoir si on peut sans trop de risques remettre en liberté quelqu'un qui peut présenter une dangerosité certaine et qui a commis des actes graves, c'est évidemment une responsabilité qui est lourde pour l'expert. Or, dans ces domaines où l'expertise est obligatoire, on a besoin d'avoir un nombre suffisant d'experts. C'est rarement le cas pour des experts psychiatres. Il en manque dans beaucoup de lieux, et des experts compétents. Voilà. Et il est évident qu'il faut donc que les tarifs qui leur sont appliqués soient suffisants. Est-ce le cas? Je n'en suis pas certain. Je pense que tout le monde a en mémoire, à l'occasion de la trop célèbre affaire d'Outreau, la réflexion qu'avait faite un expert psychologue qui avait dit qu'au tarif d'une femme de ménage, il était difficile de faire des expertises de qualité. Alors la forme était peut-être un peu malheureuse, mais je pense que ce qui était exprimé correspondait effectivement à une réalité. Et je crois que ça, c'est une question sur laquelle nous, magistrats, nous n'avons pas de prise, puisque tout ce qui est tarifé par définition nous échappe, mais je crois que c'est quand même une question qui nous concerne tous, parce que c'est un domaine où, encore une fois, ces questions de tarification ont des incidences, à mon avis, assez évidentes sur le nombre et, le cas échéant, la qualité des experts dans des domaines qui sont tout à fait déterminants. Alors, pour ce qui concerne les expertises civiles, je pense que si l'on a souhaité qu'il y ait des magistrats et notamment un président de tribunal de grande instance qui puisse intervenir, parce que c'est que, comme la plupart de mes collègues présidents de tribunaux de grande instance, je suis à la fois juge des référés, c'est-à-dire celui qui prescrit quand même un nombre important d'expertises civiles, le magistrat chargé du contrôle des expertises civiles qui les suit en leur long, qui statue sur des demandes de consignation complémentaire, sur tous les problèmes qui peuvent survenir, et également le juge taxateur qui taxe. Donc, on pourrait se dire, c'est merveilleux, voilà un magistrat qui connaît l'expertise du début à la fin, qui donc doit avoir la maîtrise et la connaissance et la maîtrise parfaite de toutes ces questions de coûts. C'est évidemment loin d'être le cas, pour des raisons qu'il va falloir rappeler. Lorsque le juge ordonne une mesure d'expertise, son but, c'est d'essayer effectivement, le but qui lui est assigné, c'est d'essayer de faire en sorte que cette mesure soit la moins coûteuse possible. Et notamment, mais on lui demande en même temps de pouvoir chiffrer le plus précisément possible le coût de l'expertise, et vous l'avez évoqué il y a quelques instants dans vos ateliers, c'est le problème du coût de la consignation initiale qui est posé. La difficulté qui se pose pour nous magistrats, et notamment pour le juge des référés, c'est que c'est extrêmement difficile d'avoir une vision très précise de la nature exacte des opérations, et de l'ampleur surtout des opérations d'expertise qui vont avoir lieu. Parce qu'un dossier tel qu'il se présente à nos référés, il est en général très succinct, assez indigent. Les avocats, en général, donc font dans le cadre de leur assignation, résument très succinctement les faits, la raison pour laquelle ils ont une expertise, les dommages. On a en général assez peu de pièces, et comme la plupart du temps, il n'y a pas d'opposition de la partie adverse à la demande d'expertise, il n'y a pas véritablement de débat qui a lieu, ce qui fait que le juge des référés ordonne une expertise qui n'est contestée par personne, qui est acceptée par tout le monde, mais sans savoir très précisément la nature des opérations que l'expert va devoir faire. Et donc, c'est très difficile, sur cette base-là, de fixer une consignation très précise. Alors, j'ai entendu tout à l'heure qu'on disait une consignation minimale de 1 000 euros, ça ne pose effectivement pas de problème. L'autre difficulté, pour fixer également un montant de consignation, c'est qu'il peut y avoir, d'un ressort à l'autre, d'une cour d'appel à l'autre, des différences tout à fait considérables. Moi, j'en ai fait l'expérience pratique très, très fréquente. Lorsque je suis amené à désigner un expert hors du ressort de la cour, parce que notamment il n'y a pas d'expert inscrit dans le domaine d'activité nécessaire, en général, étant dans les Ardennes, je désigne soit un expert du ressort de la cour d'appel de Paris, soit un expert du ressort de la cour d'appel de Nancy, qui sont les plus proches géographiquement pour nous. pour des expertises strictement identiques, faites par des experts ayant les mêmes qualifications, la même réputation, on a des tarifs d'expertise qui peuvent varier de 1 à 3 à 1 à 4. Donc c'est quand même tout à fait considérable, ce qui montre bien toute la difficulté d'objectiver le coût d'une expertise. Et au sein même du ressort même de la Cour d'appel de Reims, on a pu également constater qu'il pouvait y avoir des différences qui n'étaient certes pas aussi importantes, mais qui pouvaient exister. Donc il est aussi nécessaire d'adapter localement ce montant de l'expertise. Alors, il me semble qu'effectivement, me semble-t-il, dans ce cas-là, la façon de procéder qui me paraît la plus adaptée, c'est dès la première réunion d'expertise pour l'expert de fixer un devis, d'établir un devis, et sur la base de ce devis, de demander au magistrat chargé du contrôle des expertises de fixer une consignation complémentaire et de ne commencer ses travaux qu'une fois que cette consignation complémentaire a été versée. C'est, je crois, concrètement le seul moyen qui peut nous être, auquel on peut procéder. Parce que il était dit, ce serait bien, c'est un souhait qui est émis par les experts et que je comprends, de dire il serait souhaitable que chaque magistrat accordé d'une expertise puisse prendre contact avec nous pour savoir si l'on accepte la mission, essayer de nous demander de chiffrer le coût initial de l'expertise. C'est malheureusement, en pratique, vous le comprendrez bien, je pense, tout à fait impossible, hein, compte tenu du nombre d'expertises que l'on peut ordonner chaque semaine, de charges de travail. Il nous est absolument impossible de contacter l'expert. Nous le faisons très ponctuellement pour une expertise particulière, une expertise sensible qui sort un petit peu de l'ordinaire, pour d'abord s'assurer qu'éventuellement qu'elle entre bien dans le champ de compétences de l'expert. Ce n'est pas toujours évident pour nous de le déterminer sur la base des éléments que l'on a, et puis pour lui signaler s'il y a une difficulté particulière ou si on suppose on subodore qui risque d'avoir un coût qui risque d'être particulièrement important. Mais mis à part ces cas qui sortent de l'ordinaire, ça nous est effectivement impossible. Alors, les difficultés qui ont pu être effectivement, que l'on peut également rencontrer ensuite, c'est que par rapport au coût, c'est que la durée de l'expertise peut être aussi le coût de l'expertise peut également être fonction de la durée d'expertise. Et donc, c'est important effectivement qu'il ne puisse ne pas y avoir de débordement en ce qui concerne les délais. Il a pu être souligné, Madame Menotti l'avait relevé, ça a été dit également dans les ateliers, dans l'atelier auquel j'ai participé ce matin, il y a parfois aussi des difficultés qui viennent aujourd'hui, parfois de l'importance du volume des pièces qui peuvent être communiquées par les avocats. Donc c'est important, me semble-t-il aussi, pour l'expert de bien pouvoir préciser exactement, dans la mesure du possible, parce qu'il n'en est pas totalement maître, évidemment, mais de pouvoir maîtriser dans la mesure du possible ces éléments. Et puis, l'autre difficulté qui se pose aussi pour la fixation du coût, c'est que celui qui va tarifer, qui va fixer le montant de la rémunération de l'expert, c'est-à-dire le juge taxateur, c'est quelqu'un qui va pouvoir effectivement encore à connaissance du rapport de l'expert, qui aura pu donc voir effectivement si l'expert a rendu son rapport dans les délais, qui pourra examiner le coût des mesures qu'il demande, mais en revanche, il n'a pas la possibilité d'avoir véritablement d'appréciation sur la valeur effectivement du rapport, si effectivement celui-ci a pu en fait être de bonne qualité ou au contraire avoir pu poser problème parce qu'il ne répondait pas véritablement au fond du problème et amener ensuite le tribunal qui en était saisi à devoir ordonner une autre expertise. Parce que cela, ça ne pourrait être déterminé qu'ultérieurement quand l'affaire viendra devant le tribunal si effectivement il est saisi au fond, et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra s'en rendre compte. Donc, on le voit bien, il y a un certain nombre de difficultés qui peuvent se poser. Comment y remédier? Quelles sont les possibilités, les recommandations qui peuvent être faites? Alors, ce point va être développé par les autres intervenants de cette table ronde. Je voudrais simplement dire un ou deux points qui me semblent importants. J'ai dit ce qu'il en était, me semblait-il, sur la meilleure marche à suivre en ce qui concernait la fixation de la consignation avec l'établissement ensuite d'un devis et une demande de consignation complémentaire. Pour éviter également de perdre du temps et d'essayer de faire au mieux de l'expertise. Ce qu'indiquait dans sa note Mme Menotti, qui est une suggestion que je partage tout à fait, c'est qu'elle disait que parfois certains avocats soufflaient, entre guillemets, un nom d'expert. Bon, ce qui n'est pas forcément en soi choquant, mais bien sûr, le magistrat qui l'ordonne reste en maître de la notion d'expert. Mais ce qui serait beaucoup plus utile, parce que ça éviterait parfois une perte de temps, c'est que les avis, et ce qu'elle suggère, c'est que les avocats indiquent dans quelle rubrique ils souhaitent qu'un expert soit désigné, parce que c'est parfois loin d'être évident, et que ce sont les avocats qui sont au contact de leurs clients, et notamment de celui qui sollicite une expertise, qui sont quand même au mieux, a priori, de pouvoir déterminer le domaine d'activité dans lequel l'expert et doit être sollicité. Alors, il y a également une autre suggestion qui était faite par Mme Menotti, sur laquelle je voudrais juste dire un mot. Elle indiquait à juste titre, elle rappelait à juste titre que parfois ce qui est, et je pense que vous le rencontrez tous, et notamment pour ceux d'entre vous qui ont des expertises en matière de construction à faire, c'est que parfois ce qui retarde le temps de l'expertise et retarde également, donc des incidences sur le coût, ce sont les appels en garantie qui peuvent être faits d'un certain nombre de parties. Et parfois ça intervient en cours d'expertise, parfois c'est tardivement, et quand une partie vous dit « attendez, là il faut que je mette en cause une autre personne, il faut suspendre les opérations », c'est évidemment du temps perdu et un délai supplémentaire et un coût supplémentaire pour l'expertise. Elle proposait que dans l'ordonnance du juge des référés qui ordonne cette mission d'expertise, il y ait un délai qu'elle a estimé à 2 mois, qui devrait être fixé, dans lequel on invite les parties. On dit que ces appels en cause devront intervenir dans un délai de 2 mois. Je pense qu'on peut le faire. Je ne suis pas absolument certain que ce sera d'une efficacité absolue, parce que si une partie ne le fait pas et que malgré tout, après, elle indique au cours des opérations d'expertise qu'il faut le faire, je vois mal comment on pourrait effectivement dire non, puisque sinon ça posera des problèmes ultérieurs. Mais en tout cas, ça pourrait être une incitation ou un rappel pour les parties à ne pas perdre de temps en la matière. Et ce qu'elle recommandait, et qui me semble peut-être plus efficace encore, c'est lors de la première réunion d'expertise, aux experts de faire un tour d'horizon complet avec les parties, de toutes les personnes qui sont intervenues dans l'affaire, afin que l'expert puisse, en commun, lors de cette première discussion avec les parties, bien vérifier qu'il n'y ait pas nécessité de mettre en cause d'autres parties. Ça pourrait être effectivement quelque chose qui pourrait être fait d'emblée lors de la première réunion d'expertise, s'assurer qu'il n'y aura pas d'autres personnes à mettre en cause. J'ai bien conscience que ça ne résoudra pas tous les problèmes et que parfois c'est au cours justement des opérations d'expertise qu'on s'aperçoit qu'il y avait d'autres parties, mais ça peut être effectivement un moyen utile. Voilà, je ne déflore pas plus avant le sujet pour laisser la parole à mes 2 autres intervenants à cette table ronde. Simplement juste un point pour dire quelque chose qui me semble tout à fait important et qui, je pense, est dans l'esprit de cette réunion qui nous réunit magistrats experts. C'est rappeler qu'en matière de coûts, comme dans l'ensemble des questions qui peuvent poser difficulté lors de la réalisation des opérations d'expertise, ne jamais oublier qu'il y a un magistrat qui est là, qui est le magistrat qui est chargé du contrôle des expertises, et que les experts ne doivent pas avoir peur, d'avoir de craintes révérencieuses de contacter pour résoudre une difficulté. Alors s'il n'y a pas d'urgence particulière, ça peut se faire par écrit, et on y répondra. Je sais effectivement, vous l'avez dit, c'est parfois difficile de nous joindre par téléphone, j'en conviens tout à fait. L'idée d'une boîte mail dédiée, nous y réfléchissions également à Charleville-Mézières, et je vois que c'est une idée partagée. Je pense que ça peut effectivement faciliter les contacts, mais quelle que soit la forme que cela doive prendre, voilà, j'incite vraiment à ne pas hésiter à le faire pour régler une difficulté. C'est souvent, ça peut aider véritablement à la résolution d'une difficulté qui pourrait intervenir, y compris donc sur ces questions de coûts.
Alors ces préconisations, quelles sont-elles? La première, sans doute, c'est de déterminer au mieux la mission de l'expert, déterminer au mieux sa mission et subséquemment s'assurer de sa compétence pour traiter l'essentiel du dossier dont il s'agit. Alors, tout à l'heure, il a été fait allusion à cette pratique, enfin, quand même assez fréquente, en tout cas dans certaines juridictions, qu'ont les avocats de souffler un nom au magistrat, et c'est sûrement quelque chose qui n'est absolument pas condamnable, avec une petite réserve que soulevait Sylvie Minetti, qui est quand même importante, qui est que des avocats peuvent parfaitement s'entendre à l'audience pour faire le choix d'un expert, donc il est assez évident que...
Une autre partie qui sera attraite un peu plus tard devant le juge n'aurait pas souhaité la présence. Donc ça, c'est quand même une réserve importante. Il n'empêche que la pratique, elle est certainement sous cette réserve tout à fait bonne. Par ailleurs, certains magistrats, y compris en référé, semble-t-il, prennent le soin de consulter l'expert pressenti avant que de le nommer. Alors la démarche doit être approuvée à l'évidence, mais enfin, cela étant, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions, peut-être parce que d'ailleurs les magistrats n'ont pas énormément de temps. Tout d'abord, c'est une démarche qui relève de l'initiative personnelle des magistrats, donc la généralisation, c'est peut-être autre chose. Ensuite, elle est totalement impossible à mettre en œuvre, j'imagine, dans les juridictions qui ont de très gros contentieux en référé, genre 40 ou 50 dossiers dans la matinée. Et enfin, pour qu'elle soit vraiment efficiente, une telle pratique nécessiterait que l'expert ait à sa disposition, lorsqu'il est consulté sur son éventuelle désignation, une copie de l'assignation, et puis, en plus, une copie des pièces essentielles du dossier, ce qui, matériellement, est parfaitement impossible. Donc, la démarche est certainement opportune, mais elle sera sans doute assez limitée. Suggestion, sur ce terrain de la détermination de la mission de l'expert et de l'assurance que l'on doit prendre de la compétence qui sera la sienne, suggestion, quant à la mission de l'expert, une pratique pourrait être adoptée qui semblerait, ça c'est Sylvie Menotti, et qui nous a beaucoup inspiré pour ses propos, qui semble-t-il connaît un magistrat qui développe cette pratique à Paris. L'assignation, très souvent, est vague, elle est souvent extrêmement vague. Les missions qui sont utilisées sont des missions type. Il serait peut-être souhaitable d'inviter l'expert dans la décision qui le désigne à établir au cours de la première réunion d'expertise dont on parlait tout à l'heure, une liste dont on s'efforcerait qu'elle soit objective, exhaustive, excusez-moi, lapsus terrible, des questions qui lui seront soumises, avec envoi de cette liste au juge pour information. Chacun pourra ensuite s'y référer, d'abord pour éviter que l'expertise peut-être parte dans tous les sens, et ensuite pour montrer le cas échéant que telle question n'a pas été retenue délibérément, enfin a été délibérément exclue du champ d'investigation de l'expert. Et autre avantage important sans doute, une telle pratique permettrait, lors de la première réunion, de faire le point, enfin une tentative de point sur le coût généré par chaque demande, et par conséquent, elle permettrait peut-être de responsabiliser les parties dont il importe qu'elles prennent la mesure de l'impact financier, s'agissant du coût de l'expertise, que vont avoir leurs prétentions et leurs demandes. Et ça, je crois que c'est assez important. Autre préconisation, se garder de deux écueils dans la fixation de la consignation. Alors, bien évidemment, il est quand même extrêmement difficile de fixer une consignation d'une manière précise, et tant s'en faut, aussi bien, je pense que le juge doit s'en tenir à un montant moyen pour éviter les deux écueils, par le haut et par le bas. Tout d'abord, un montant trop bas, parce que si le juge fixe un montant trop bas, cela va induire le demandeur en erreur sur le coût exact de sa demande, en fait, sa demande sur le coût de l'expertise, et ce qui risquera de le faire déchanter quand arriveront les demandes de consignation supplémentaires et quand arrivera le coût final de l'expertise. Et alors, à l'inverse, si le montant est trop haut, il est susceptible de dissuader le demandeur, surtout si c'est un particulier, alors pourtant que sa demande est parfaitement justifiée. Alors ici, une question très impertinente, en fait, on peut toujours la poser. Est-ce qu'il serait envisageable de tenir compte, pour la fixation de la consignation, mais également pour la rémunération de l'expert, de façon plus générale, de la capacité financière du demandeur? C'est un pavé dans la mare, hein, bien évidemment. Alors, est-ce que le demandeur qui est un simple particulier, ou le demandeur, qui est une entreprise importante, qui a un bataillon d'avocats et d'experts à son service. Il est bien évident que poser la question, l'on aperçoit immédiatement le goût amer que peut faire naître, par exemple, dans l'esprit d'un expert judiciaire comptable ou financier, le constat d'une consignation, ce qui serait basé sur un taux horaire notoirement plus bas que celui dont va bénéficier l'expert conseil de l'entreprise. Enfin, c'est un pavé dans la mare, mais c'est Mme Menotti qui l'évoquait. Je crois qu'il est quand même intéressant de poser la question. Troisième préconisation, surveiller, mais enfin là c'est du grand classique, étroitement les délais de communication des pièces. Il n'est pas admissible qu'un demandeur mette des mois à communiquer des pièces à l'expert, alors pourtant qu'il est à l'origine de la procédure. Alors c'est vrai que les avocats ont tendance à dire que monsieur l'expert, c'est pas de ma faute. Nous avons tendance à dire, ça n'est pas de ma faute. Les parties n'ont pas communiqué les pièces. Il est évident qu'il appartient quand même à un avocat qui introduit une procédure de référé expertise, de s'assurer avant que de l'introduire qu'il a déjà les pièces nécessaires, puisqu'il doit déjà les communiquer à la partie adverse. Il lui appartient de vérifier qu'il a tous les éléments en main. Donc, les experts, mais ça vraiment, je crois qu'il y a longtemps qu'on doit le dire dans ce genre de réunion et de colloque, doit faire preuve d'une grande vigilance, d'une très grande fermeté dans l'exigence d'une communication rapide des pièces. Il faut que l'expert formalise ses demandes de communication de pièces par écrit, il faut qu'il relance, il faut qu'il assortisse ses demandes de délais raisonnables et de délais précis. Il faut que l'expert assure un suivi rigoureux de ses communications de pièces avec le cas échéant des lettres de rappel, si nécessaire des lettres de rappel combinatoires. Il faut que l'expert évite des réunions d'expertise alors qu'il sait pertinemment qu'il n'a pas les éléments en main parce que les avocats des parties ne lui ont pas communiqué pour mener à bien sa réunion, qui va donc ne servir strictement à rien et qui devra être reportée. Et il faut qu'il souligne lorsqu'il reporte, et ça arrive, je pense, quand même relativement souvent, de la faute des parties, il faut qu'il souligne la raison pour laquelle il reporte, il est obligé de reporter sa réunion, et qu'il souligne que ce report est dû à la carence d'une partie, tout simplement. Et l'expert, sans doute, ne doit pas hésiter à remettre une copie de ses correspondances au magistrat, et le cas échéant, copie de ces échanges à la demande de prorogation de délai qu'il va être contraint d'élever. Et enfin, l'expert doit user de la menace de saisir le juge s'il le faut, et non seulement user de cette menace, mais y recourir si la partie défaillante fait preuve d'une inertie totale. Autre quatrième préconisation, avoir des exigences précises quant aux modalités de communication des pièces. Alors, il est bien certain, encore une fois, on l'évoquait il y a un instant, que les avocats sont tributaires de la diligence de leurs clients pour transmettre les pièces nécessaires. Mais une fois, tout à fait indépendamment de ce qu'ils doivent avoir avant que d'introduire une procédure, la totalité des éléments en main, ou la quasi-totalité, tout à fait indépendamment de cela, une fois qu'ils ont les pièces en main, il ne s'agit pas de communiquer à l'expert un nombre de feuillets incalculables dont une bonne partie ne présente rigoureusement aucun intérêt. C'est une chose qui, je pense, arrive assez fréquemment ou pas grand intérêt. Autrement dit, peut-être comme en matière de poubelle, faire un tri sélectif, à savoir les pièces essentielles sur un bordereau idoine et les pièces incontournables donnant lieu à l'élaboration d'un bordereau spécifique de communication et éventuellement sur un autre bordereau, des pièces qui ne sont pas vraiment indispensables, mais que la conscience de l'avocat va le conduire à aller diffuser, peut-être pour information, plus pour un aspect d'information que pour leur caractère véritablement probatoire. Sur ce terrain également, s'agissant des exigences relatives aux modalités de communication des pièces, les experts devraient sans doute, enfin ils le font je pense, devraient sans doute éviter les communications en vrac, et c'est vrai que certains font observer aujourd'hui que avec le scan, on envoie des kilos de papier, des mètres, des kilomètres de papier, et je pense que ça n'est absolument pas acceptable, pour la même raison que celle qui vient d'être indiquée. Autre préconisation, cinquième préconisation, limiter les appels en garantie, là on ne revient pas sur ce que vous venez de dire il y a un instant, limiter les appels en garantie et peut-être également un mot sur la charge de la consignation complémentaire. On déplore assez fréquemment une imputation systématique de la consignation complémentaire au demandeur initial. Et c'est vrai que c'est quand même extrêmement fréquent. Alors, cela étant, la pratique résulte d'une considération extrêmement simple, le souci légitime tout simplement de ne pas compromettre la suite des opérations d'expertise, parce qu'en cas de défaut de versement de la consignation supplémentaire, que le demandeur fera nécessairement, puisque c'est quand même lui qui a le premier intérêt, on va se diriger vers le dépôt d'un rapport en l'état, ce qui n'est pas très satisfaisant. Cela étant, sur un terrain strictement juridique, il est parfaitement possible de mettre la consignation complémentaire à la charge d'une partie autre que le demandeur, et peut-être une approche pragmatique de la question conduirait-elle à imputer cette consignation à celui des parties autres que le demandeur qui va bénéficier de la mise en cause du tiers, mise en cause pour laquelle notamment l'expert va être obligé de solliciter une consignation complémentaire. Sixième préconisation, avoir une approche nuancée de la demande de rémunération de l'expert. Alors là, naturellement, c'est peut-être davantage le point de vue directement de Mme Bénotier, je veux dire, de parler d'un magistrat que celui d'un avocat, mais enfin l'avocat le comprend tout à fait également. Tout d'abord, sur le taux horaire de l'expert. Alors, ne parlons pas des choses qui fâchent, si j'ai bien compris, il ne saurait être question de barème. Il n'en demeure pas moins que dans le ressort de chaque cour d'appel circule l'indication d'une fourchette moyenne, crois-je savoir. Ce taux horaire moyen est critiqué. Ce taux horaire moyen est critiqué à plusieurs égards. Tout d'abord, et c'est vrai que vu de l'extérieur, même quand on ne fait pas énormément d'expertise, on se rend compte que la fourchette est la même pour tous les experts judiciaires, quel que soit leur domaine d'activité, ce qui n'est sans doute pas tellement satisfaisant. Donc la fourchette ne rendrait absolument pas compte des différences importantes entre les différentes branches d'activité dans lesquelles peuvent respectivement opérer les experts. Autre critique, la fourchette est la même, par ailleurs, quel que soit le mode de fonctionnement de l'expert. Je pense que la critique est peut-être ici un peu moins fondée. La fourchette est la même, quel que soit le mode de fonctionnement de l'expert, autrement dit, alors même que certains experts travaillent dans des structures subissant de très lourds coûts de fonctionnement qu'ils trouveraient assez normal de répercuter sur le coût de l'expertise. Je ne suis pas certain sur ce terrain, c'est un avis qui est très personnel, que ce soit vraiment le problème du justiciable. Et enfin, alors là c'est sans doute le point le plus sensible, le taux horaire judiciaire entre guillemets est peut-être assez inférieur au taux du marché dans certains domaines en particulier, et je songe bien évidemment par mes activités universitaires, surtout en matière de droit des affaires, etc. Je pense surtout dans le domaine de l'expertise comptable et financière, dont les rémunérations seraient inférieures des experts en matière comptable et financière, sans doute dans des fourchettes allant de 25 à 50% des taux pratiqués dans leur branche. Et ces critiques, la deuxième, peut-être un peu moins, sont réelles. Alors, que répondre à cela? Quelle réponse peut-on apporter? En ce qui concerne la fixation d'un taux horaire moyen par branche d'activité, une telle fixation ne paraît pas être interdite. Elle ne paraît pas devoir être interdite. En tout cas, elle n'est pas interdite par les textes qui se réfèrent à des critères de compétence et de notoriété. Elle ne serait pas davantage incongrue. Elle serait de nature, peut-être, à combattre la désaffection de certains professionnels parfaitement compétents, la désaffection dans le domaine judiciaire, dans certaines branches d'activité. Cela étant, la mise en pratique de l'idée, qui est sûrement une idée assez saine, risque de se heurter à des obstacles pratiques. Tout d'abord, qui pourra justifier de ce taux horaire moyen pratiqué par profession? Et la deuxième observation, qui est dans le droit fil de la première, la mise en œuvre d'une telle idée risquerait d'être un facteur de discorde entre les experts judiciaires de disciplines différentes. C'est vrai que là, le risque est peut-être important. Alors, quant au différentiel allégué entre le taux de rémunération judiciaire, entre guillemets, et le taux de rémunération du marché, moins entre guillemets, le principe en lui-même n'est pas choquant. enfin, dès lors tout au moins que l'écart est contenu et dès lors tout au moins que l'écart est raisonnable. L'écart est raisonnable. Il en aura garde d'oublier, et moi je le sens en fait, à d'autres égards, que c'est important, on aura garde d'oublier que pour un expert judiciaire, pour un professionnel, être couché sur la liste des experts judiciaires est quelque chose d'extrêmement bénéfique. C'est une évidence. C'est quelque chose qui... Ah, je vois une tête qui remue, qui hoche dans le mauvais sens. Moi, j'en suis tout à fait convaincu, aussi bien comme praticien que comme indirectement comme universitaire. J'en suis totalement convaincu, mais enfin, on peut parfaitement ne pas être d'accord, c'est une évidence. Et de là, peut-être l'idée quand même d'une certaine compensation, parce que je pense incontestablement qu'un expert qui est couché sur la liste des experts judiciaires bénéficie d'une certaine renommée et que ça lui apporte un certain nombre de choses, indubitablement. Alors, sur le... c'est vrai que cet équilibre... Si on peut parler de compensation, enfin pas au sens du régime général de l'obligation, bien évidemment, cet équilibre, ce petit équilibre, peut-être un peu précaire, pourrait, c'est vrai, se trouver remis en cause par un écart si cet écart venait à se creuser, ce qui pourrait entraîner, ce qui existe déjà d'ailleurs, une pénurie d'experts dans certains domaines particuliers. Alors, sur le nombre d'heures facturées par l'expert, bon, très simplement, il suffira de dire ici que les experts doivent expliciter le plus précisément possible cette rubrique dans leur demande de rémunération. Alors, sur les autres coûts, vraiment un mot, ça ne me paraît pas très compliqué. C'est vrai, nombreux sont les autres coûts qui, pour être importants, peuvent donner lieu à une vérification extrêmement simple, parce que la vérification sera objective, coût de la page dactylographiée de l'ordre secrétariat, coût de la photocopie, des clichés, des frais de déplacement, etc., etc. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, pour régler toutes ces questions, de disposer d'une manière de référentiel ? Parce que personne ne peut comprendre, par exemple, que le prix de la photocopie varie du simple au triple d'un cabinet d'expertise judiciaire à l'autre cabinet d'expertise. Et ce n'est pas nécessairement entre Paris et la province. Enfin, faire preuve, dernière préconisation, faire preuve de réalisme dans la charge finale du coût de l'expertise. Alors là, on est sur le terrain des dépens et sur le terrain des frais irrépétibles. Le code de procédure civile offre des moyens, quand même, peut-être, pour sanctionner les abus, au travers des dépens et de la charge des dépens, entre la partie qui va succomber ou la partie qui va obtenir gain de cause, entre, au regard de la plus ou moins bonne foi qui peut être la sienne, au regard du caractère peut-être excessivement procédurier qui peut être le sien. Et puis, il y a également les frais irrépétibles. Donc, le code de procédure civile donne les moyens, peut-être quand même, d'éviter ici les débordements. Alors, tout à fait à la fin, j'en ai pour une seconde, je voudrais ajouter un mot, mais là, qui est un peu en dehors de... c'est pas tellement ma casquette d'avocat, mais c'est plutôt celle d'universitaire qui me pousse à... Enfin, ou plutôt qui m'invite à dire quand même deux mots. Il est bien certain que les avancées de la science, le développement des nouvelles technologies... qui sont des applications de l'expertise judiciaire, sont devenues telles et deviennent de plus en plus tous les jours telles que l'appréciation des faits litigieux ne peut... l'appréciation des faits litigieux dans leur exacte matérialité ne peut plus être embrassée par l'honnête homme qui est le juge. Seulement, cela se traduit par quelque chose. Cela se traduit par ceci, que la participation de l'expert dans le processus d'élaboration du jugement a pris de la sorte une ampleur considérable, et je pense qu'elle a pris une ampleur qui affecte indirectement, mais qui affecte parfois lourdement la juridiction. Or, il importe d'assurer le cantonnement de l'expertise à une fonction purement probatoire, car sa fonction, c'est une fonction exclusivement probatoire, et le moyen d'y parvenir est à rechercher peut-être dans le plein exercice par le juge, des pouvoirs qui lui imposent d'assumer son office, et s'agissant singulièrement de l'interprétation des faits au regard de la règle de droit. J'ai terminé. Et je veux dire par là que la préqualification ne doit pas être l'affaire de l'expert, la préqualification ne doit pas échapper au juge, exactement de la même manière qu'il n'est pas question que la qualification lui échappe. L'expert n'a aucune légitimité pour se déterminer relativement aux catégories juridiques. Autrement dit, il importe, enfin c'est peut-être un peu pas très habile de dire cela, mais je pense qu'il importe quand même que le juge ne se laisse pas aller à la facilité une manière de faciliter qui consiste à ordonner une mesure d'instruction. Voilà.
Bien, il faut quand même me laisser quelques temps parce qu'il faut que je manifeste ma désapprobation sur quelques points qui viennent d'être énoncés par monsieur le professeur et mon ami Jacques Maury. Mais évidemment, le contenu de mon intervention ne porte pas que là-dessus. Le contenu de mon intervention, c'est la réalité de terrain. D'abord, je voudrais féliciter les organisateurs, Pierre Sopic et Marianne Bernard, pour avoir choisi un sujet courageux et audacieux, hein, puisque réalité de terrain, le coût de l'expertise, il va falloir parler d'argent. Le monde judiciaire, le monde des magistrats, en général, est peu à l'aise avec ce sujet. C'est le sujet qui m'est confié, donc pardonnez-moi, mais je vais vous parler d'argent. Je vais vous parler d'argent. Pourquoi ? Parce que, mesdames et messieurs les magistrats, les listes d'experts sur lesquelles vous allez choisir vos experts, il ne faut pas se dissimuler qu'elles sont structurées aussi en fonction de la rémunération qui est donnée aux experts. Hein ? Si aujourd'hui un certain nombre de professionnels ne sont pas attirés par l'expertise, il n'y a pas tellement d'autres explications que ça. Donc il faut parler d'argent, il faut parler de taux horaires, il faut comparer ces taux horaires avec ceux des professions et se demander si le système actuel permet à la fois d'attirer les meilleurs professionnels sur les listes et même de conserver ceux qui y sont et de motiver ceux qui y sont. Alors, je vais vous parler des expertises pénales tarifées, pour commencer. Et là, la réponse est dans le titre. Hein, les expertises pénales tarifées, il suffit de donner quelques chiffres. Hein, on n'a pas parlé de chiffres, mais je vais vous donner quelques chiffres. Les expertises pénales tarifées, c'est 138 euros pour une autopsie avant inhumation. 230 euros après exhumation. On comprend que ce soit plus cher. Le sujet, si j'ose m'exprimer ainsi, étant sans doute plus difficile à traiter. 33 ou 55 euros pour un transport sur les lieux pour une levée de corps. 277 euros pour une expertise psychiatrique. 172 euros pour une expertise psychologique. Dans le dossier qui vous a été remis, un expert psychologue disait que une expertise psychologique lui prenait 20 heures. Vous avez bien fait de vous adresser à un expert comptable, donc 172 euros divisé par 20, ça fait pas loin de 9 euros de l'heure. Hein, 9 euros de l'heure. Alors, le simple énoncé, évidemment, de ces quelques chiffres suffit à montrer la gravité de la situation. Pas tout à fait. Pour être tout à fait complet sur la gravité de la situation, il faut ajouter les délais de paiement qui sont considérables. Quelle est la conclusion sur les expertises tarifées? La conclusion a déjà été donnée par Mme Bussière dans le rapport qu'elle a fait sur l'expertise avec M. le procureur général Autain. Dans des termes choisis, il était écrit qu'on constatait une pénurie d'experts dans ce domaine, pénurie qui relève, je cite, pour une partie non négligeable d'une dimension financière. Alors, c'est élégamment dit. Si on veut le dire un petit peu plus brutalement, la question angoissante, c'est de se demander pendant encore combien de temps les experts concernés vont accepter de réaliser des expertises à ce niveau de rémunération, sachant, pour être tout à fait complet, que les complications administratives sur la généralisation de la TVA pour les médecins au 1er janvier 2014, puis ce qui va bientôt arriver, c'est-à-dire, enfin, si j'ose dire, parce que la situation est terriblement floue, un nouveau statut social et fiscal de l'expert qui devrait bousculer certaines habitudes, risque d'accentuer la fuite d'un certain nombre d'experts. Voilà, ça c'est pour les expertises pénales tarifées, dont la situation est, à l'évidence, la plus grave. Pour les expertises civiles, évidemment, on passe dans un autre monde, hein, puisque c'est le justiciable qui paye. Le coût de l'expertise civile, c'est les honoraires de l'expert et puis quelques frais. Bon, les frais, je ne vais pas m'attarder dessus, ce n'est pas le plus passionnant. Juste un mot sur les frais. L'objectif de dématérialisation des expertises qui est en cours de mise en place, outre l'intérêt qu'il aura pour faire plus moderne, devrait, on l'espère aussi, avoir une incidence sur la réduction de ces frais. Sur les honoraires proprement dits, qui constituent bien sûr la partie principale de la rémunération de l'expert, c'est l'article 284 du Code de procédure civile qui dit que c'est le magistrat qui fixe cette rémunération, mais aucun texte ne précise comment il peut la fixer. L'objectif de la fixation de cette rémunération, c'est de trouver un point d'équilibre, évidemment, un point d'équilibre entre, d'une part, rémunérer un travail de spécialiste, qui n'est pas un bénévole ni un rentier, il faut rémunérer l'expert, et puis il faut aussi, bien évidemment, faciliter l'accès à la justice pour le justiciable. La jurisprudence de la Cour de cassation est très peu abondante sur la question de la rémunération de l'expert, néanmoins deux arrêts importants que je vous cite. Un premier arrêt de la deuxième chambre civile de 2001 qui dit « La rémunération de l'expert est déterminée en considération de ses diligences et des difficultés techniques de l'expertise, et non en fonction de l'enjeu du litige. » C'est un débat qui revient souvent. La deuxième chambre civile a clairement dit que la rémunération de l'expert ne doit pas être fixée en fonction de l'enjeu du litige. Un deuxième arrêt important qui dit « À supposer qu'un barème ait été établi, il est illégal, c'est la Cour de cassation qui parle, faute pour la Cour de disposer d'un pouvoir réglementaire. » Donc il ne peut pas juridiquement y avoir de barème fixé par la Cour. Alors, tout ça, bien sûr, la réalité est un petit peu plus complexe, puisque les honoraires des experts, c'est quoi? C'est un taux horaire annoncé multiplié par un volume d'heures, et le magistrat va se déterminer sur la base de... va devoir apprécier ces deux composantes. Les taux horaires. Alors le taux horaire, donc pas de barème, la Cour l'a dit, en réalité des pratiques pour contourner le terme. Des pratiques, bien sûr, chaque cour a un barème plus ou moins officieux. Il n'y a pas véritablement, et on comprend pourquoi, de recensement de ces pratiques. Tout à l'heure, un chiffre vous a été donné, 50 à 150 euros par heure, c'est ce que vous avez dit ce matin. Moi, je peux vous dire, à Paris, c'est de 95 à 140 euros. Donc, vous voyez, les Parisiens ne sont pas si riches que ça. Et le barème parisien s'inscrit dans le vôtre. Ce qui est important de constater, c'est que ce taux, bien sûr, ce taux horaire ne correspond pas aux pratiques professionnelles. Ce n'est pas les taux qui sont pratiqués dans les professions. On a un exemple, parce qu'une étude a été faite par un GIP. Un GIP, c'est un groupement d'intérêt public qui a interrogé de trois catégories d'experts, des psychiatres, des experts comptables, des interprètes traducteurs. Et c'est là, c'est de cette étude que sortait le chiffre que tu as cité sur le fait que les experts comptables ont répondu que pour la majorité d'entre eux, les taux horaires qu'ils pratiquaient en expertise judiciaire étaient inférieurs de 25 à 50% à leur taux professionnel. Et même si d'autres spécialités n'étaient pas visées dans cette étude, il est à peu près certain que pour d'autres spécialités, on se trouve dans la même situation, et que là est la difficulté pour attirer certains professionnels vers l'expertise judiciaire. Parce que la pratique trop systématique de taux très sensiblement inférieur au taux professionnel a nécessairement une incidence sur le recrutement des experts. Vous avez des experts qui exercent leur activité professionnelle dans des structures avec des coûts de fonctionnement. Alors, je comprends bien qu'on dit ça n'est pas le problème du justiciable. Ce n'est pas le problème du justiciable, peut-être, mais si les experts qui sont dans des structures importantes, qui sont peut-être au cœur de leur profession, qui disposent de moyens importants, s'ils ne viennent pas à l'expertise, c'est bien le problème du justiciable. Si vous n'avez sur les listes d'experts que des experts exerçant dans des toutes petites structures ou retirés de leurs affaires, ce qui ne veut pas dire que ce ne sont pas de bons experts. Hein, on peut très bien être dans une toute petite structure, voire ne pas avoir de structure, ou juste retirer de son activité professionnelle et être un excellent expert. Simplement, ce que je dis, c'est qu'il faut que sur les listes, il y ait une diversité d'experts. Il y ait des gens qui soient capables de traiter une fuite dans une centrale nucléaire, de la même façon qu'il y ait des gens qui soient capables de traiter une fuite sur une terrasse qui fuit dans l'appartement de la personne en dessous. C'est ça la richesse des listes. Il faut que la justice dispose d'une grande palette d'experts. Or, la pratique actuelle des taux ne répond que de façon très insatisfaisante à ce souci. Il y a des cabinets très structurés, il y a des gens qui sont sur la liste, mais ils le sont par un goût qui leur est propre, qui est tout à fait honorable, par un véritable intérêt intellectuel pour l'expertise judiciaire. Mais cela, il n'y en a pas tant que ça, et on peut s'interroger sur le point de savoir s'il y en aura longtemps. Alors, un point que Jacques Maury a souligné tout à l'heure et qui a suscité manifestement quelques désapprobations dans la salle, à savoir, ça n'est pas cher, mais c'est compensé. C'est compensé par le caractère honorifique de l'inscription sur la liste. Alors, bien évidemment, je ne vais pas dire que le fait d'être inscrit sur une liste de cours n'est pas honorifique. Ça l'est. Nous sommes tous d'accord là-dessus et nous sommes enchantés d'avoir ce titre. Simplement, ça a des effets presque pervers. Parce que, d'abord, au point de vue financier, il y a des catégories d'experts sur lesquelles ça ne présente strictement aucune conséquence positive. Aucune. Hein. Les experts comptables et les ingénieurs, à mon avis, qu'ils soient, ou même architectes, hein, qu'ils soient sur la liste ou pas sur la liste, ça ne va pas leur apporter des clients. Bon. C'est sans doute assez différent, par exemple, pour les interprètes ou les experts en art. C'est sûr qu'un expert en art qui est expert sur une liste de la Cour, ça lui donne quelque chose en plus. Bon. Alors, pour ceux pour lesquels ça ne présente pas d'intérêt financier, mais un intérêt honorifique, je dis que ça peut avoir un effet pervers, parce que ceux-là, ils vont sur la liste pour une mauvaise raison. Ils vont sur la liste parce que c'est très bien d'avoir un titre honorifique, mais on peut craindre que ceux qui y vont pour cette raison-là, leur souci majeur, c'est de ne pas avoir d'expertise. Donc,
excuse-moi, je n'ai pas parlé de problème honorifique, j'ai parlé de notoriété, ce qui est complètement différent.
Oui, mais je dis la notoriété n'a pas de conséquences financières pour toute une série d'experts. Je serais bien curieux de voir un ingénieur ou un expert comptable qui est trouvé à gérer une comptabilité parce qu'il est expert judiciaire. Je crois que ça n'est pas vrai. Encore une fois, ce qui est différent pour le marché de l'art, par exemple. Donc, ce que je finis rapidement parce que je sais que le temps passe. Ce que je soumets comme idée. Hein, je sais bien que je dois faire des constats et pas des propositions, mais c'est toujours un petit peu difficile de séparer les deux. On disait tout à l'heure pour penser que ça n'était pas possible. Est-ce qu'il est souhaitable et matériellement faisable d'introduire de la souplesse dans ces pratiques de taux horaires? Moi, je dis que oui, et la preuve, c'est que j'ai déjà réussi à le faire. Alors pourquoi je réussis à le faire? Je vous donne un exemple. J'ai une expertise dans un dossier très compliqué. J'ai autour de la table des avocats de grands cabinets dont les honoraires, et ils le méritent certainement, sont très conséquents. Et chaque expert de partie est accompagné par un confrère, par un de mes confrères, que je connais très bien, les deux, hein, puisqu'il y a des armadas d'experts qui accompagnent les parties. Et je sais pertinemment que les parties payent leurs experts, qui font donc la même profession que moi et qui ont moins de responsabilités, puisque c'est moi l'expert judiciaire. Je sais très bien qu'ils sont rémunérés deux fois plus cher que moi. Donc je me dis, il y a quelque chose qui défie la logique. Hein, puisque là, c'est pas l'intérêt du justiciable qu'il faut préserver. Le justiciable, il se paye des experts qui sont davantage payés que l'expert désigné par la Cour. Bon. Et dans les affaires de ce type, alors, je ne dis pas qu'il faut systématiser ça, mais je dis que je souhaite pouvoir introduire de la souplesse dans la fixation des honoraires de l'expert, et j'ai réussi déjà à deux reprises à le faire. Comment? Tout simplement en présentant des budgets d'honoraires, des provisions, des demandes de provisions en indiquant un taux horaire supérieur à celui qui est généralement pratiqué, en soumettant ces devis aux parties, qui en général ont quand même serait malvenu de me dire que mon taux horaire est indécent puisque c'est probablement il est encore inférieur à celui qu'ils vont payer à leur conseil. Et si j'obtiens l'accord des parties sur cette provision, je la soumets ensuite au tribunal, bien évidemment, en indiquant que les parties m'ont donné leur accord. Ça, j'ai déjà fait ça deux fois et deux fois j'ai pu donc afficher un taux horaire qui me paraissait davantage compatible avec la situation des parties et la difficulté de l'affaire. Voilà, pour terminer, juste deux points sur la prévisibilité du coût et la maîtrise du coût. La prévisibilité du coût, c'est bien sûr pour les parties absolument fondamental. Je voudrais quand même constater, comme vous l'avez déjà fait, mais peut-être en des termes encore plus directs, que l'article du Code de procédure civile qui dit que la provision initiale doit être la plus proche possible du coût final de l'expertise est strictement inapplicable pour certaines spécialités, en tout cas. Elle est strictement inapplicable. À tel point que la seule solution dans mon domaine, notamment, c'est que, et beaucoup aujourd'hui de tribunaux le reconnaissent, la seule solution, c'est que le coût prévisionnel de l'expertise ne peut être fixé au mieux qu'après la première réunion d'expertise, voire parfois après la réception des pièces qui sont consécutives à la première réunion d'expertise. Parce qu'à la première réunion d'expertise, parfois, les gens ne savent pas trop, n'ont pas encore les idées bien claires sur le volume de pièces et la difficulté que va rencontrer l'expert à exploiter des pièces qu'ils n'ont eux-mêmes pas encore rassemblées. Donc c'est la réalité du terrain, c'est ça, c'est qu'il y a un article du Code de procédure civile qui est inapplicable. Voilà. Et quant à la maîtrise du coût, une des solutions pour la maîtrise du coût, c'est bien évidemment que ce soit le bon expert qui soit désigné avec la bonne mission. Alors là encore, on se heurte à un problème pratique, Monsieur le Président. Je sais la difficulté que vous rencontrez lorsque vous devez désigner en référé de nombreux experts, mais j'ai bien entendu ce que vous avez dit, et ce qui est très rassurant, à savoir que quand les affaires sont complexes, néanmoins, vous tentez de prendre contact avec l'expert, car c'est la seule solution. Trouver le bon expert, lui donner la bonne mission, c'est la seule solution, c'est d'avoir un contact avec lui, même si c'est insuffisant, c'est mieux que de choisir un nom sur un annuaire qui est évidemment insuffisant pour identifier le bon expert. Pour terminer, un mot sur les expertises pénales non tarifées. Parce que les expertises pénales non tarifées, la caractéristique, les taux horaires sont à peu près les mêmes qu'en civil, mais la caractéristique des expertises pénales, c'est que là, l'expérience que j'en ai, que ce soit en enquête préliminaire ou en instruction, les magistrats prennent systématiquement contact avec les experts. J'ai même des cas où des juges d'instruction m'ont demandé d'aller officieusement, mais nous sommes entre nous, d'aller consulter le dossier d'instruction, regarder en gros les scellés, et pour que nous puissions réfléchir ensemble, le magistrat et l'expert, à la bonne mission. Et la maîtrise du coût, c'est à l'évidence, évidemment, le bon expert, mais c'est aussi la bonne mission. Et la bonne mission, ce n'est pas du tout la mission la plus large possible, c'est au contraire la mission la plus précise, la plus limitée, afin d'encadrer l'expert dans ce qu'il doit faire. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour conclure très, très brièvement, je crois que nous sommes tous attachés à l'expertise à la française. L'expertise à la française, c'est le choix d'un expert sur une liste établie par la Cour après vérification de ses compétences. C'est un expert qui accepte une certaine modération de ses honoraires, parce qu'il participe au service public de la justice. Mais pour ne pas vous faire complètement un film de Walt Disney, ce que je viens d'avoir l'impression de faire dans les propos que je viens de dire, pour que tout ça fonctionne, il faut introduire un peu de souplesse. Il faut évidemment sortir de cette horreur des expertises tarifées. Et pour les expertises non tarifées, il faut permettre, quand cela est nécessaire, de laisser aux experts la possibilité d'être rémunérés plus convenablement. Et c'est sans doute comme ça que cette expertise à la française à laquelle nous sommes tous très attachés pourra continuer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Thank you.